Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je vais prier. Père Céleste, il ne faut rien d'autre que Jésus, notre Sauveur, pour nous pauvres pécheurs. Qu'est-ce que nous sommes idiots de chercher auprès de quelque part d'autre, quelqu'un d'autre, le plaisir, le bonheur, le salut, quand c'est Jésus qu'il nous faut. Pardonne-nous. Et si nous pouvons te demander une chose, Seigneur, pour ce moment, dans ta parole, c'est que nous puissions apercevoir à travers cette parole Jésus, crucifié, ressuscité, glorieux, incomparable, que nous puissions rentrer alors soulagés, pardonnés, en paix avec toi, et dans la joie. Ce sera notre bonne part aujourd'hui. Amen. L'enveloppe qui est venue par la poste m'était bien adressée, pasteur, église évangélique. Et à l'intérieur, une carte d'un aspect assez moderne, QR code pour des liens vers une vidéo, image de la planète Terre, avec un message. Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus sont un Dieu. Ouais, je suis d'accord avec ça. Les citations bibliques figuraient sur la carte. On remarque, par exemple, je reconnais l'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Un peu étrange que Dieu était écrit avec minuscule plutôt que majuscule, mais sinon, rien ne clochait jusque-là. Et puis on regarde d'un peu plus près. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus incarné, revenu. Revenu. Phrase suivante. Christ des derniers temps est apparu en Chine. Est-ce que nous rions de cela? Est-ce que c'est ridicule? Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, « Si on vous dit, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas, car tous les peuples de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Mais cet exemple, qui est un exemple réel, montre que des erreurs circulent aujourd'hui qui visent particulièrement les chrétiens évangéliques, et qui, ces erreurs, ressemblent au christianisme authentique. Et les erreurs qui ressemblent au christianisme authentique sont plus puissantes que les erreurs qui n'ont rien à voir avec le christianisme. S'ils annonçaient « Jésus n'est pas Dieu, il faut suivre un Dieu chinois », on dirait immédiatement « mais non, c'est pas ça ». On dirait que c'est faux. Mais ils parlent d'incarnation, d'esprit, de la Bible, de Christ, et cela peut nous tromper. On est beaucoup plus enclin à croire une erreur si elle ressemble à notre foi. On remarque aussi avec le temps que des mots commencent à changer de sens, perdent leur sens d'origine. Lumière ne signifie pas connaissance de Dieu, mais intelligence humaine. Divin signifie simplement très bon. Ah, ce gâteau est divin, et ça ne signifie plus « de Dieu ». L'enfer est utilisé pour n'importe quelle circonstance difficile au quotidien, l'enfer des naveteurs, etc. Et la communion est redéfinie pour signifier une expérience à l'Église ou en dehors de l'Église. Les sportifs ont communié avec leurs fans, mais pas la foi commune. Des expressions donc de la Bible, des mots de la Bible, peuvent être utilisés aujourd'hui, mais avec un sens tout à fait différent. Du coup, nous avons besoin d'entendre non seulement les mots, mais le sens des mots. Saisir à nouveau quel est le sens des mots de notre foi. Et pour cela, nous devons écouter quelqu'un qui a écrit à des chrétiens avec cet objectif, leur rappeler la foi originelle, la foi des origines. Ouvrons ce matin la Bible à la première lettre de Jean. À la fin de la Bible, on a ces lettres de Jean, l'Apocalypse est peut-être la plus connue, mais c'est avant cela, il y a les autres que nous appelons, sans beaucoup d'imagination à vrai dire, mais 3 Jean, 2 Jean et 1 Jean. C'est toujours le même Jean, mais il a écrit 3 lettres, alors on les a numérotées et on les a mis dans la Bible. 1 Jean, dont la plus longue avant l'Apocalypse, et on va lire au chapitre 2 pour comprendre un peu à qui il écrit. Il écrit pour des chrétiens. Et l'apôtre sait qu'ils sont exposés à des nouveaux courants de christianisme. Ce n'est qu'au début, on est au premier siècle. Mais déjà, il y a des soi-disant améliorations, des nouvelles versions de christianisme qui circulent. Et Jean leur écrit à des chrétiens. Lisez avec moi, regardez avec moi, Jean 2, verset 21. « Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. » Et puis au verset 24 et 25, « Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire ? Retenez ce que vous avez entendu dès le début, le message d'origine. Des gens, à l'époque, utilisaient les mêmes termes comme communion, lumière, connaître Dieu, aimer Dieu, avec une vision mystique de Jésus-Christ, qui n'était pas un homme, mais une apparition de l'Esprit de Dieu. Et Jean tire la sonnette d'alarme. En même temps qu'il est en train de tirer la sonnette d'alarme, il est en train de rassurer les chrétiens. « Si ce que vous avez entendu demeure en vous, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Vous aurez la vie éternelle, rappelle-t-il. » Alors le message de ce matin est rassurant. Si tu as simplement cru en tant qu'enfant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour toi, ou en tant qu'adulte, tu as lu l'évangile de Jean et tu as mis ta confiance en Jésus parce que tu as vu qu'il était digne de confiance. Tu comptes sur la vraie incarnation de Dieu, Jésus, pour te sauver. Tu n'as pas à modifier ta foi. Tu n'as pas à la mettre à jour. Il n'y a pas de réinvention nécessaire. Il n'y a pas de christianisme 2.0. Continue à croire. Retiens ce que tu as cru. On va lire aujourd'hui le chapitre 1 et c'est là le passage qu'on va vraiment méditer. Commençons au début. Chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Voici les messages que nous avons entendus de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Deux points. Et deux points très simples, il fait chaud aujourd'hui, peut-être qu'on aura du mal à se concentrer, mais retenons ces deux points. D'abord, le vrai Jésus apporte la vie. Le vrai Jésus apporte la vie. Alors c'est un peu étrange, peut-être que vous êtes chiffonné comme moi, je me suis questionné en regardant ce texte cette semaine. Pourquoi est-ce que Jean décrit Dieu avec des termes un peu impersonnels ? La vie, la lumière, regardez, verset 2, la vie s'est manifestée. Verset 6, nous marchons dans la lumière. C'est très vague, c'est un peu abstrait, n'est-ce pas? Des personnes croyaient que Christ n'était pas incarné. Est-ce une bonne idée de répondre en utilisant des expressions générales? abstraite, vie, lumière, parole. Pourquoi est-ce que Jean le fait ? Moi, j'aurais commencé, mais bien sûr, personne ne m'a demandé d'écrire la Bible, mais moi, j'aurais commencé en disant « Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai vu un homme qui s'appelait Jésus, j'ai appris à le connaître et j'ai vu qu'il était plus qu'un homme, c'était Dieu parmi nous, il était réellement le Seigneur. » Mais il faut regarder de plus près. En fait, ce que Jean veut faire par cela, c'est qu'il veut souligner dès le départ la divinité de Jésus. Il ne commence pas par l'humanité de Jésus, il commence par la divinité de Jésus. Au verset 1, il dit « Il était dès le commencement ». Il n'y a que Dieu qui était là dès le commencement, n'est-ce pas ? Avant que tout a été créé. Jésus est Dieu. Il était auprès du Père, verset 2. Et Jésus est la vie. Il ne dit pas simplement « Jésus est vivant ». On est tous vivants. Jésus est la vie. Et c'est ce que Jésus lui-même avait dit. En Jean 5, verset 26, il est écrit « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc il est la source de la vie. Il est celui qui transmet la vie aux autres. Notre vie est en lui. Ce n'est pas une réalité biologique seulement. C'est une réalité d'une vie spirituelle qu'il nous donne. Ainsi comme Paul, en Philippiens, nous pouvons dire « Christ est ma vie ». Ou encore Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, Colossiens 3, verset 4, c'est formidable, il dit « Quand Christ, notre vie, apparaîtra, vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. » Christ est notre vie, il est la vie du chrétien. L'illustration la plus proche dans le domaine physique est lorsqu'un bébé est dans le ventre de sa mère. Le bébé vit de la vie de la mère. Il prend tout d'elle, l'oxygène, l'alimentation. Il est vivant en elle, grâce à elle. Et de même, notre vie spirituelle dépend de la vie de Jésus, Dieu le Fils. Jean veut souligner que Jésus est divin, mais ensuite il veut dire que Dieu n'est pas resté au loin. Regardez à nouveau le verset 2, la deuxième partie du verset 2. La vie éternelle qui était auprès du Père s'est manifestée à nous. Et pour éviter tout doute, pour enlever toute ambiguïté, il va nommer celui qui est apparu au verset 3, le Fils Jésus-Christ, et à nouveau au verset 7. Dieu a un nom, il a une identité précise. Ce n'est pas un vent ou une vague puissance ou un être inconnu. Jésus est le nom de l'homme précis. Et Christ est son titre, roi messianique. Et le Fils de Dieu est son identité. Jean insiste alors qu'il a connu le vrai Jésus. Ce n'était pas un mirage. Jean était là. Vous savez que Jésus a eu beaucoup de disciples. Il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient son enseignement, qui comptaient sur lui, qui voyaient en lui le Sauveur. Parmi ses disciples, il y en avait 12 que Jésus a choisis pour être ses apôtres. Ça veut dire envoyer, les envoyer en mission. Et parmi ces 12, il y avait Simon, Pierre, le roc, comme Jésus l'a appelé, Jacques et son frère Jean. Jacques a été tué par Hérode. En acte 12, Pierre, comme annoncé par Jésus, a été tué aussi en martyr. Paul aussi le sera. Jean, maintenant un homme âgé, est le seul qui demeure. Si cette lettre a été écrite environ 95, l'an 95, et que Jean avait 20 ans, peut-être au moment des faits, de la vie de Jésus, la mort de Jésus, ça veut dire que, on fait le calcul, Jean aurait environ 85 ans au moment d'écrire ces lignes. Tous les autres sont morts, mais Jean est la mémoire vivante du ministère de Jésus. C'est ce qu'il veut souligner face aux détracteurs, ceux qui voulaient un nouveau christianisme, un Jésus redessiné. Jean dit, j'étais là, je l'ai vu. Au verset 1, il dit, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. Et vous voyez comment cette description aussi, il s'approche de plus en plus de Jésus avec les verbes qu'il utilise. Quelqu'un se réjouissait à la radio cette semaine parce qu'elle était grand fan de M. Pokora. Et elle connaissait tous ses chants. Et elle était heureuse parce qu'elle avait appelé la station de radio. Elle était gagnante d'un concours pour assister à un concert privé de M. Pokora. Je ne sais pas si ça vaut la peine, mais en tout cas, elle était très contente d'avoir ce prix-là. Elle l'avait entendu, elle l'avait vu. Maintenant, elle avait la possibilité de le contempler, de pouvoir être en sa présence, de pouvoir lui serrer la main. Jean a eu cette proximité avec Jésus. Pas le temps d'un concert, mais pendant des années, de le toucher, de le voir, d'être à côté de lui, de pouvoir le contempler, de le voir de près. Et donc, lorsqu'il écrit, il écrit avec l'autorité d'un témoin, « J'étais là !»« Nous en sommes témoins !» dit-il, verset 2, lui et les autres apôtres. Mais où est-ce qu'il veut en arriver? Eh bien, verset 3 nous montre, au verset 3, il y a le « afin que » et « afin que » nous signale qu'il y a quelque chose, là, une raison d'être. C'est « afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous ». Communion dans le sens d'avoir quelque chose en commun, d'être associé. Les lecteurs sont associés à Jean parce que Jean est associé à Dieu et à son fils Jésus. Vous voyez la logique? Le vrai Jésus apporte la vie. Jean a connu le vrai Jésus. Et maintenant, si vous croyez ce que Jean a dit, vous êtes en communion avec Jean et avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Jean et les apôtres ne sont plus sur terre, évidemment. Nous ne sommes pas en contact avec eux, nous ne sommes pas en communion avec eux, à strictement parler. Mais nous sommes associés au vrai Jésus, si nous croyons ce que les apôtres ont écrit pour nous. Et notre foi n'est pas en un Dieu ou en la vie. Il y a des gens qui disent « je crois à la vie ». Mais non, nous croyons en quelqu'un de spécifique, Jésus, incarné, vu par les disciples. Le vrai évangile est un message que les apôtres ont annoncé et le vrai salut, la vie éternelle, tient à ce message. Notre communion aussi en tant que chrétien est associée à la vérité, basée sur la vérité. Si vous avez le sentiment que au moins on parle, au plus on est d'accord, en fait, détrompez-vous. On peut aller en plus de profondeur dans la vérité et mieux savoir la vérité et alors mieux être en communion les uns avec les autres parce que nous nous basons sur les mêmes choses. Et c'est ce qu'il est en train de souligner. Jean va aussi nous corriger. Si nous disons des choses fausses sur Dieu, ou si nous croyons des choses fausses sur nous-mêmes, il veut nous corriger. Et c'est pour ça qu'il cite trois fois « si nous disons », verset 6, « si nous disons », verset 8, « si nous disons », verset 10. Il veut corriger ce que nous disons. Et il va souligner dans cette deuxième moitié du texte « le vrai Jésus apporte la lumière ». Le vrai Jésus apporte la vie. Le vrai Jésus apporte la lumière. Il nous dit qui était Jésus. Et maintenant, il nous dit quel est le message. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Dieu est amour. Jean va dire cela. Mais Dieu est aussi lumière. Ça veut dire sainteté, pureté morale. Il n'y a pas de zone d'ombre chez lui, de compromission. Pas de demi-vérité non plus. Il est lumière, il dit la vérité. Il est entièrement vrai. Il n'y a pas de mal en lui. Si nous disons que nous appartenons à ce Dieu, bon, vrai, saint, nous devons donc vivre pour lui. Ne séparons pas la foi publique, ce que nous disons par rapport à Dieu, et la vie privée, ce que nous vivons. Il va donner quelques exemples. Versets 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est un appel à être cohérent, à être intègre. Le premier exemple qu'il donne est incohérent, on dit une chose et on vit autre chose. Le deuxième exemple est cohérent, on dit qu'on est dans la lumière et on marche dans la lumière. Christ ayant éclairé ma vie, je ne peux pas continuer comme avant. Je ne peux pas continuer comme si rien n'a changé. Si quelqu'un dit de toi, tu sais, depuis que tu es devenue chrétienne, tu es exactement la même. Ce n'est pas un bon signe. Quelqu'un qui dit « Ah, avant de rencontrer Jésus, j'étais alcoolique. » Mais maintenant, elle continue à s'enivrer. C'est pas crédible, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de changement dans sa vie. C'est comme un jeune homme qui a voulu monter dans une barque sur un lac et garder un pied à terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé à l'eau. Ensuite, le prochain exemple, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Certains sont purifiés par le sang de Jésus, mais d'autres se disent innocents de péché. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? Quand quelqu'un proclame « Ah, moi je n'ai pas de mauvais désir, moi je n'ai pas de mauvaise pensée, je ne dis jamais rien de mal. Wow. » Pourtant, c'est une erreur. C'est pas vrai. La vérité n'est pas en nous si nous disons ce genre de choses-là. Ça veut dire que la vérité ne nous a pas percutés. Pourquoi? Parce que si tu n'acceptes pas la vérité de Dieu sur ton état et ton péché, tu ne vas pas chercher le vrai Jésus pour ce qu'il a à nous apporter. Mais on peut voir comment cette erreur se glisse dans un milieu chrétien, parce que nous ne voulons pas pécher. Et donc nous sommes impressionnés par quelqu'un qui dit qu'il y arrive. Nous voulons être dans la lumière, nous sommes dans la lumière. Et cette personne aussi dit « Oui, je marche dans la lumière, je marche dans la lumière. » Vous voyez, ce n'est pas évident tout de suite que la personne se trompe. Et le troisième exemple, ça va encore plus fort, verset 10, parle de notre passé. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons jamais péché, là, non seulement nous mentons, mais nous sommes en train de contredire Dieu et sa parole. Car Dieu a dit « Tous ont péché » et sont privés de la gloire de Dieu. Deux amis dans l'Église peuvent se parler et découvrir qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés. Pour l'un, le péché, c'est la paresse. Et pour l'autre, l'activisme, le manque de prière et de dépendance sur Dieu. Tous les deux ont péché, mais peut-être de manière assez différente l'un de l'autre. Ou une amie est trop critique, l'autre manque de maîtrise de soi dans un autre domaine. Tous ont péché, mais tous n'ont pas péché de la même manière. Et c'est pour ça que nous pouvons dire « Je n'ai pas le même péché que toi », mais nous devons dire « Comme toi, j'ai péché. » Comme toi, j'ai péché. Pas de la même manière exactement, mais quand même. Et c'est difficile. Je pense que c'est difficile si nous avons vécu une vie droite. Nous pouvons en fait être plus conscients des efforts que nous avons faits pour Dieu. Comme ce jeune homme qui a dit des commandements, je les garde depuis que je suis petit. Pense à tout ce qu'on fait pour Dieu et les bonnes choses. Mais même ceux qui vivent une vie droite, en principe, devraient être conscients du péché dans leur vie. Car nous qui sommes saints, le péché, même le moindre péché, devrait nous déranger de plus en plus en grandissant la ressemblance de Christ, en grandissant dans la sanctification par le Saint-Esprit. Le péché vous embête, c'est bon signe, c'est que vous voulez être saint. Mais j'irai même plus loin. Ces versets 8 et 10 nous interpellent si nous sommes du genre à nous défendre. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, quelqu'un me fait remarquer. Est-ce que je me défends? Ah, en fait, personne ne m'avait rappelé que je devais le faire. Ou « N'oublions pas que j'ai fait le bien beaucoup d'autres fois. » Ou « Oui, mais j'allais le faire. » Ce sont toutes des excuses, mais des façons de dire en fait « Je n'ai pas péché, je ne suis pas fautif. » Vous voyez? Si nous nous défendons nous-mêmes avec ces excuses, nous ne reconnaissons pas le péché en nous. Il dit « Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. » Il faut saisir le verset 9. On va terminer avec ça. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour faire quoi? Nous exclure? Nous battre? Nous condamner? Non. Pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Parfois, longtemps après, nous sommes rongés par un sentiment de culpabilité. Je n'aurais jamais dû agir comme ça. Parfois, le souvenir du péché est pénible, n'est-ce pas? une phrase que nous avons dite à haute voix et qui nous colle pour toujours. C'est devenu notre réputation. Tu te souviens, elle avait dit ça. D'autres péchés reviennent comme un cycle infernal. Après les avoir vaincus, on a l'impression qu'ils sont ressuscités dans notre vie. Et comme Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Alors on a honte de se présenter devant Dieu, n'est-ce pas? C'est encore moi et c'est encore la même chose. Mais il n'y a pas d'alternative. Si nous voulons être en paix avec Dieu, les mensonges sur notre bonté ne vont pas marcher. Dieu ne va pas nous aider si nous mentons devant lui. Faire semblant d'être meilleur que les autres ne va pas marcher devant Dieu. Jésus, le vrai Jésus, a donné son sang et sa vie à la croix afin que nous puissions être pardonnés et purifiés de tout mal. Et j'ai vérifié dans le grec, le mot « tout » figure là. Tout mal. Pardonné pour tout ton passé. Le poids de la culpabilité enlevé si tu reconnais ton péché. À ce moment-là, tu ne veux plus te cacher dans les ténèbres ou derrière des fausses apparences. Ça ne te dérange plus que les autres sachent la vérité sur toi parce que tu sais que tu es pardonné. Les publicités pour les poudres à lessiver ont beaucoup d'exagération. C'est amusant à regarder. Et c'est vrai que ça fait plaisir lorsqu'on a des vêtements qui sortent de la machine et les taches de boue ne sont plus là. Le ketchup n'est plus sur la chemise. Quand nous mettons des habits propres le dimanche matin, ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais c'est pour dire qu'on est heureux d'être pardonné. Ça fait du bien d'être propre. Nous sommes lavés par Jésus-Christ qui est meilleur que tout produit de lessive qui puisse exister parce qu'il lave notre cœur, purifie notre conscience, nous pardonne de tous nos péchés. En conclusion, le vrai Jésus, celui que Jean a connu, apporte la vie. Alors ne soyez pas détournés de Jésus par une autre offre de quelqu'un d'autre. Une offre venue d'ailleurs, une fausse offre. Non, il n'y a pas d'amélioration sur le vrai Jésus, n'est-ce pas? Continuez à croire en lui. Et le vrai Jésus avec qui nous sommes en communion apporte la lumière. Il éclaire les zones d'ombre, il éclaire les ténèbres. Alors venons dans la lumière. Je ne dois plus me cacher. Je ne dois pas faire semblant. Mais je dois me laisser purifier. Je vais prier. Oui, Seigneur, je suis comme tout le monde dans cette salle. Et tu me connais. Merci parce que ta lumière éclaire notre cœur. S'il te plaît, Seigneur, fais que nous puissions saisir cette promesse que tu as faite de nous purifier de tout mal et que nous puissions vivre non seulement en disant que nous sommes dans la lumière, mais réellement dans la lumière, dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos pensées aussi que nous avons. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.